Vous écoutez RMC.
Avec Maxime Chanot, avec David Guzman, on parle à présent de l'Olympique de Marseille. On en a longuement parlé hier, mais c'est un sujet qu'on adore. Leonardo Balerdi conspué au Vélodrome hier. Pierre-Emile Heuberg démis de ses fonctions de capitaine par la direction du club. Le vrai faux départ de Naïef Aguerd, de l'absence de gardien titulaire. L'OM fait toujours autant parler, partout, tout le temps. Le club phocéen est scruté, analysé, disséqué, décortiqué. Supporters de l'OM, on vous attend au 32-16, à moins d'une semaine de la reprise du championnat contre Strasbourg. Voici l'avis tranché de David Guzman. Jingle.
Soit tire un peu la jambe ou sont complètement en pleine restructuration.
Tire la jambe, mets de côté s'il vous plaît.
Ils sont méchants hein, en régie. David, c'est à toi. Et tu veux parler de Franck McCourt.
Ouais, tu tires un peu la jambe aussi d'ailleurs. Franck McCourt. Non, mais Franck McCourt, à mon sens, ça va être la saison vérité, parce que ça va être la saison la plus difficile certainement depuis qu'il a repris l'Olympique de Marseille. Il y a plus de 10 ans, moi, pendant longtemps, Franck McCourt, j'ai peut-être été naïvement ou exagérément positif à son encontre. J'ai fait plusieurs avis tranchés. En répétant, et je persiste à le penser, que les supporters marseillais ont de la chance d'avoir Franck McCourt, qui a injecté plus de 700 millions d'euros dans le club, qui encore cet été a garanti une partie du futur déficit d'exploitation et a permis, de façon un peu ironique, à l'OM de ne pas vendre tout son effectif pour satisfaire la DNCG et l'UEFA. Mais Franck McCourt, il est un peu à un tournant, et pour un club qui se veut une institution, à mon sens, il va devoir respecter et imposer le respect concernant plusieurs éléments. Le premier, c'est que Franck McCourt, il va devoir un peu plus respecter sa hiérarchie, la chaîne de commande et les salariés. Moi, j'ai été interloqué et profondément heurté par sa sortie indirecte, parce que ça a tellement fuité que ça ne peut venir que de la direction, quant à Pierre-Emile Heuberg. Pierre-Emile Heuberg, pardon, c'est juste le reflet de son incurie financière. C'est-à-dire que c'est complètement contre-productif de sanctionner un joueur, donc de lui retirer le capitanat, et de publiquement, entre guillemets, le sermonner pour son refus d'aller signer à Newcastle. C'est-à-dire que les 500 000 euros par mois, c'est Franck McCourt via la direction qu'il a mise en place, qu'il leur a donné. C'est contre-productif et ça va faire perdre de la valeur à Pierre-Emile Heuberg sur le marché que de le sermonner comme ça publiquement. Idem avec Bruno Genesio, qui a été très franc. Moi, j'ai adoré sa sortie, qui a avoué que lui, sportivement, il comptait sur Pierre-Emile Heuberg. Et Franck McCourt, qui dit que tout le monde a besoin d'être solidaire dans cette saison un peu galère, j'aimerais bien qu'il commence un peu plus à écouter son entraîneur, justement en parlant de solidarité, et que un joueur qui joue, c'est aussi un joueur qui est mis en avant, et c'est aussi un joueur qui peut partir beaucoup plus facilement. Le deuxième respect, c'est bien évidemment le respect de la réglementation financière. De toute façon, il y est obligé par l'UEFA et par la DNCG, parce qu'il a pris des engagements très forts, et l'UEFA, c'est une qualification au futur Coupe d'Europe, dépend de cette cure de maigreur, de minceur, pardon, qu'il va devoir mettre en place. Ensuite, le respect des supporters, dans la mesure où je trouve que dans ces temps très difficiles financièrement, même si il ne veut pas affaiblir sa position de négociation sur le marché, un peu d'exercice de communication financière, un peu de précision quant à la situation financière, lui qui répète que le club doit faire des efforts financiers, les supporters marseillais sont souvent pris pour plus idiots qu'ils ne sont, plus enflammés qu'ils ne sont, plus exaltés qu'ils ne sont, et je suis absolument certain qu'ils pourraient facilement, aisément comprendre un discours de raison avec des objectifs chiffrés concernant les futures ventes à venir. Et quatrième point, être une institution, c'est aussi se faire respecter, et se faire respecter dans les institutions. Sherazade Semcesar de Boissaison vient d'être réélu à la Ligue, une Ligue où l'OM était complètement inaudible suite à la sortie tout corrupte, complètement incroyable, de Pablo Longoria il y a deux saisons. Donc avoir un OM audible et respecté dans les instants, ça va aussi être un challenge de Franck McCourt. Donc Franck McCourt, pour moi, c'est la saison de tous les dangers. C'est, il va avoir plusieurs tests à passer par rapport aux salariés, par rapport à la situation financière, par rapport aux supporters et par rapport aux instances. Et c'est une saison charnière dans son mandat à la tête de l'OM.
Et Max, il va falloir être prêt tout de suite, hein, les cinq premières journées. Strasbourg à domicile, je l'ai dit, déplacement à Monaco, réception du PFC, déplacement à Rennes et le PSG au Vélodrome en septembre pour la cinquième journée. Il est chaud ce début de saison.
Et tu m'enlèveras pas l'idée que les supporters de l'Olympique de Marseille, qui connaissent très très bien le ballon, quand bien même c'est une saison de transition, si on peut l'appeler comme ça, de dégraissage, si les 4-5 premiers résultats sont mauvais, je pense que ça risque d'être un bon bordel sportivement. Ça l'est déjà dans la direction et j'ai énormément de craintes pour l'Olympique de Marseille. Alors j'étais très heureux de l'arrivée de Lorenzi, je trouvais que c'était un bon choix dans la mesure où on avait compris que McCourt allait fermer les robinets, qu'il ne voulait plus dépenser à tort et à travers, aller chercher un directeur sportif qui maîtrise très très bien la Ligue 1. C'était une bonne option. Alors dans quelles conditions, ça on va pas y revenir, on a vu qu'il y avait quand même encore une fois des erreurs de la part de McCourt. Quoi qu'il en soit, j'avais dit donc que Lorenzi était une bonne chose. Alors la saison a commencé avec un petit bordel aussi entre guillemets, parce qu'il y avait le l'imbroglio entre Lorenzi, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. On a mis un peu ça sur le côté.
C'est une bonne chose qu'il réussit à le débaucher.
Mais c'est vrai que t'arrives à un moment où l'Olympique de Marseille, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, t'as besoin un petit peu de stabilité, de calme. Et avec l'arrivée de Lorenzi, j'imaginais que ça allait être le cas. Bon, finalement, ça l'est, on va dire plus ou moins. Derrière, il récupère Genesio, qui, ma foi, était pour moi une belle opportunité, d'un point de vue en tout cas financier, même si je sais pas si vous avez vu, mais Genesio, quand il parle, j'ai l'impression que ça fait quoi? Ça fait deux mois qu'il est à l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'il a pris 10 ans. Il a laissé pousser la barbe, il a les cernes.
Après, Genesio, il est honnête. Il pense à son équipe au côté sportif. Après sa sortie hier, moi je trouve que ça fait
donc,
des ordres.
Pour terminer par rapport à la doublette Genesio-Lorenzi, alors j'entends qu'en effet lui aussi doit se protéger, doit protéger son groupe, mais tu ramènes un entraîneur qui est quand même censé entre guillemets tirer dans le même dans la même direction que son directeur sportif et son président. Là c'est complètement l'inverse, donc en fait il vient encore une fois remettre de l'huile sur le feu en disant c'est ma direction, c'est un bordel phénoménal ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, et tu changes les hommes et ça continue et encore ça continue, alors que pour l'instant ils n'ont pas la pression sportive des mauvais résultats. Alors imaginons, tu l'as dit Christophe, que sur les 5 premier match, en plus de ça, ça commence à perdre. Oh là là, mais j'imagine les aspects endiablés en fait, qu'on va faire là sur
Max,
les 4-5
si
premières
si
semaines.
Si je devais résumer mon avis, c'est que injecter de l'argent, ça suffit pas. Il a longtemps cru qu'injecter de l'argent, ça suffisait, et prouvait que ça ne suffit pas. Et c'est quand le bateau tangue, justement, qu'il faut avoir un actionnaire un tout petit peu plus visible, un tout petit peu plus impliqué, ouais, et un tout petit peu plus,
oui, il aurait dû le
même
faire
beaucoup
avant,
plus à l'écoute de ses équipes. Mais c'est-à-dire que moi,
il
j'aime
a été
beaucoup
à l'écoute pendant 10 ans. Il a balancé 700 millions d'euros.
Mais il n'était pas à l'écoute.
Oui, mais c'était l'écoute. C'est-à-dire que quand les mecs arrivaient en disant j'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir faire une saison convenable, il envoyait l'oseille. Là, je me mets à sa place. Il est en train de tout dilapider. Heureusement qu'il va essayer de reprendre les manettes du bateau.
Mais
malheureusement, il le fait maladroitement. Mais ça, c'est aussi la réalité de beaucoup d'investisseurs américains, que ce soit aux États-Unis et encore plus en Europe, qui récupèrent des clubs de foot. Les Américains ne connaissent rien au football, au soccer. Il faut l'accepter. C'est le monde du capitalisme. Où est-ce que ils lancent leur argent comme ça en espérant pouvoir gérer ça de la même manière qu'ils gèrent leurs entreprises ou leurs fonds d'investissement aux États-Unis? T'es bien placé pour le savoir. C'est deux choses différentes.
Allez.
Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne pas.
On accueille Idir, qui a composé le 32-16 supporter marseillais. Salut Idir.
Salut Idir. Salut tout le monde. Ça va?
Très bien, très bien. Est-ce que toi, tu y crois encore à Franck McCourt?
Moi, la vérité, actuellement, c'est très compliqué de croire. Parce que maintenant, lui, ce monsieur, qui doit arriver à faire une masse salariale de 100 millions, parce que l'UEFA et la DNCG demandent une masse salariale de 100 millions et vendent des joueurs pour 80 millions d'euros. Normalement, ils vont y arriver. Après, pour la saison à venir, le problème, ça va savoir quel équipe on va avoir. Je pense qu'on aura l'équipe en templé après le dernier jour de Mercato. Il y aura, je pense, encore des départs et des arrivées. J'ai entendu que Topido, il y a eu un accord, mais problème, il faut que l'OM vende avant de signer des joueurs.
C'est ça.
Si on n'arrive pas à vendre un ou deux joueurs, la DNCG ne nous donne pas la permission pour signer des joueurs. La DNCG, l'année dernière, avec Lyon, ils ont été plus tolérants. Avec l'OM, ils sont moins tolérants. Moi, il faudra m'expliquer ça, parce que moi, je voudrais bien qu'on m'explique. David, je voudrais bien que tu m'expliques. C'est quoi le problème en réalité financier de l'OM?
Voilà, mais non, mais en fait, si tu veux, enfin, à mon sens, il n'y a pas un problème de survie financière à l'OM. Il y a juste un problème d'un côté pour satisfaire le ratio, le squad cost ratio de l'UEFA, c'est-à-dire le montant maximum de dépenses joueurs par rapport aux revenus. Et d'un autre côté, il y a un déficit d'exploitation prévisionnel qui doit en partie être comblé par la vente de joueurs et qui a en partie été comblée par Franck McCourt. En fait, la situation avec Lyon, elle est complètement différente. Il y a beaucoup de supporters et je te blâme pas de faire la confusion, Idia. Qui confondent montant de dette, si tu veux, et déficit d'exploitation. Après, attention, l'UEFA à Lyon, ils ont quand même plus de 200 millions de déficit d'exploitation à combler sur 3 exercices. C'est très 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 raide. C'est un régime draconien. C'est un régime draconien qu'a bénéficié, dont a souffert Lyon. Enfin, faut pas croire que Lyon est passé à travers les gouttes, Idir. Enfin, tu vois.
Ah, voilà, parce que moi, je pense que cette année, moi, je pense que Maxime, je crois que nous, les supporters, on va être patients cette année. Tu dis, ah bon, si on perd 2 ou 3 matchs, on n'a pas le choix, on est obligé d'être patient. On sait que à l'OM, on tenait le football, je parlais beaucoup de supporters au téléphone. On sait que ça va être une année difficile. L'objectif cette année, c'est d'être dans les 5 premiers. Et après, si Genesio, il arrive à faire mieux, l'objectif, c'est d'être européen. Parce qu'on sait que ça va être une saison difficile. Parce que vous, les médias, vous nous mettez déjà la pression pour une histoire de Tapitana. Alors que d'autres clubs, il y a des histoires qui arrivent dans d'autres clubs, vous leur mettez pas cette pression.
Nous, à l'OM, vous nous mettez
tout le temps. À l'OM, vous, les médias, vous nous mettez tout le temps la pression.
Tu rigoles. Dis simplement que ce n'est pas un dire banal.
Vous êtes responsable un peu, les médias.
Et dire, on a passé.
Vous êtes un peu responsable, les médias. Tout le temps, vous parlez de l'OM.
Et quand on parle pas de l'OM, vous êtes pas content.
Et donc. Non, mais dire.
Allez, dire, merci d'avoir composé le 32-16.
J'attends tous les médias.
Et on va se souvenir. On a passé
un bon début de saison.
On a passé l'été à dire qu'on était confiant quant à la situation finale de l'OM au mois de septembre. Walid l'a dit, je l'ai dit, Elton l'a dit, Max l'a peut-être un peu moins dit. Tu devrais t'en prendre à Max un peu plus. Ouais.
Merci. Mais je m'en prends à Max Tour, on l'entend pas.
Merci beaucoup Idir d'avoir composé le 32-16. Marseille qui démarrera la saison 2026-2027 vendredi face à Strasbourg. Ce sera au stade Vélodrome. Il est presque 23h30. Vous écoutez RMC, vous écoutez l'After. On revient dans un instant avec Maxime Chano et David Guzman.